Radio Rythme Bleu, il est 17h45. Info Soir, c'est avec vous, Jean-François Baudin.
Une épicerie de la vallée du Tirpillet est saccagée hier soir. 13 personnes ont été interpellées. Le tarif de l'électricité devrait augmenter de 34% dans les deux ans qui viennent. Le Congrès examine en ce moment le plan de sauvetage d'Enercal. Adoptée ce matin, la réforme structurelle de la CLR, l'âge légal de départ à la retraite des fonctionnaires est désormais fixé à 62 ans. Les institutions s'engagent pour soutenir les élèves du Mont-d'Or Sud. Le gouvernement, la ville du Mont-d'Or, les acteurs de l'enseignement ont validé des dispositifs d'aide à la continuité pédagogique avec l'aide de partenaires privés. Et puis dans la page sport, 3 jeunes Calédoniens participent au championnat de France de tennis. Ils débutent la nuit prochaine pour nous à Blois. Bonsoir et bienvenue dans ce journal pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Nouvelles exactions à la vallée du Tir. Cette fois-ci, c'est une épicerie qui a été pillée dans la soirée d'hier. Les émeutiers qui étaient en possession de baramines ont commencé à taper sur les volets roulants et les portes blindées pour ouvrir le magasin. Ils étaient munis de cabas et de glacières et ils ont pillé l'épicerie en prenant surtout des cigarettes, des cartes liberté, des friandises et un peu de nourriture. C'est une voisine qui a donné l'alerte et elle a accepté de témoigner.
Vu que c'était quand même des gros cailloux qui lançaient, on est rentré dans l'appartement et après j'ai entendu qu'en bas, ils étaient en train de forcer la porte à M. Fong. Comme il habite à côté, j'ai tout de suite, M. Fong, ils sont en train d'essayer de rentrer dans votre boutique. Et après j'ai été appeler la police et ils continuaient à caillasser et après la police est arrivée. Il faisait nuit, ils avaient tous des cagoules, je ne peux pas dire qui c'est quoi.
La police a interpellé 13 personnes, dont 7 mineurs. Les pilleurs ont aussi saccagé le comptoir et volé les 50 000 francs qui étaient en caisse. Les quelques commerçants qui sont encore en activité à la vallée du Tir sont par ailleurs régulièrement menacés ou rackettés. Les élus du Congrès siègent depuis ce matin boulevard Vauban. Ils ont adopté dans la matinée à l'unanimité le projet de loi relatif à la caisse locale de retraite. Nous allons y revenir dans un instant. Et depuis le début de l'après-midi, ils examinent le texte sur le sauvetage d'Enercal, Gilles Ménage.
Au 30 juin 2024, le système de tarification actuel est déficitaire de près de 19 milliards de francs, d'où le risque imminent de cessation de paiement d'Enercal qui est, on le sait, au cœur du système calédonien. Depuis mars 2012, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est autorisé à éviter ou atténuer une évolution des tarifs de l'électricité trop importante pour les consommateurs, en contrepartie de quoi il peut ou non recourir au versement d'une compensation financière au gestionnaire du réseau de transport Enercal. Depuis l'adoption de cette délibération, le gouvernement a recouru chaque trimestre à ce mécanisme pour geler ou limiter des augmentations de tarifs sans pour autant verser systématiquement de compensation financière à Enercal. Les modifications proposées aujourd'hui par le gouvernement auraient donc pour effet de rendre plus automatique la fixation des tarifs en se fondant sur des critères objectifs d'évolution des coûts, des recettes du système, de manière à garantir son équilibre financier courant. En clair, les tarifs publics vont augmenter. De combien ? Personne ne le dit officiellement pour l'instant, mais l'estimation est de plus 34% sur deux ans en trois paliers successifs de plus de 11% chacun. Une très mauvaise nouvelle évidemment pour les consommateurs et d'autant plus dans le contexte que connaît la Nouvelle-Calédonie actuellement. Mais selon l'exécutif, la sauvegarde du système est à ce prix même si le gouvernement n'exclut pas que ces augmentations soient finalement moindres si des économies structurelles sont réalisées par ailleurs. Par même très importante, ces augmentations ne suffiront pas à couvrir le déficit d'Enercal, mais pour ne pas l'aggraver, le gouvernement sera désormais tenu d'inscrire à son budget la fameuse compensation jamais versée à hauteur de 8 milliards de francs environ, soit 5,2 milliards de francs sur l'exercice 2025, puis 2,8 milliards sur l'exercice 2026. Il est par ailleurs proposé que le montant définitif de la dette prise en charge par la Nouvelle-Calédonie soit arrêté au plus tard le 1er octobre 2025 après négociation avec Enercal, mais cette fois, personne ne dit comment cette dépense sera financée. Malgré ces nombreuses incertitudes, le texte devrait être adopté ce soir par le Congrès. Pour l'instant, seul le groupe Calédonie Ensemble semble vouloir s'y opposer. Au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Gilles Ménage, Radio Rythme Bleu.
Et en début d'après-midi, ce débat sur le sauvetage d'Enercal a été marqué par un nouvel incident provoqué par l'élue non inscrite, Maria Saliga Lutovica, qui a reproché à Mila Kulo de Kumuli d'avoir manqué une réunion de commission sur le sujet et l'a traité de roquet.
Quand vous dites des choses, il faut faire en action aussi. Il ne faut pas juste faire qui est le meilleur roquet dans une commission.
S'il vous plaît, ne recommencez pas, Madame Sakili.
Madame la Présidente,
Et puis, madame, encore une fois, vous pouvez respecter vos collègues. On peut dire ce qu'on veut, mais on ne s'insulte pas dans cet hémicycle. On n'est pas dans la rue, là.
Je suis désolée, madame la présidente.
Écoutez, je ne suis pas sourde. Donc, si je vous dis que vous avez insulté, donc suspension de séance pendant sa procédure.
Madame la présidente, je demande juste pendant la suspension de séance si on peut se voir avec les chefs de groupe sur le sujet qu'on est en train de vivre là. Je vous remercie.
Mais oui, d'accord, madame Ruffnac.
Et après avoir menacé physiquement Milakulo Tukumuli, Maria Saliga Lutovica a dû être escortée en dehors de l'hémicycle par les agents de sécurité du Congrès. Pendant la suspension de séance, les chefs de groupe et la présidente de séance Caroline Machoro ont décidé d'un échange à huis clos pour envisager une sanction. Maria Saliga Lutovica a finalement été censurée et ses propos effacés du procès verbal. Avant l'examen du plan de sauvetage d'Enercal, le Congrès a adopté ce matin à l'unanimité le projet de loi du pays relatif à la caisse locale de retraite et l'âge légal de départ à la retraite passe de 60 à 62 ans dans la fonction publique territoriale. Après les mesures d'urgence votées le 8 août dernier pour alimenter la trésorerie de la CLR et permettre le paiement des pensions, les élus ont adopté ce matin des mesures pour répondre au déficit structurel de la Caisse. Pour améliorer le ratio cotisant-retraité, ils ont donc acté le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Ils ont aussi repoussé de 2 ans la limite d'âge des fonctionnaires en activité. Elle passe de 65 à 67 ans. Le texte prévoit également d'augmenter les recettes de la CLR en prolongeant le système d'intégration des contractuels. C'est en contradiction avec les efforts demandés par l'État en matière de réduction des dépenses publiques. Mais pour Vaïmoa Mouliava, le membre du gouvernement en charge de la fonction publique, ce n'est qu'une étape dans une réforme global.
On voit bien que pour l'instant c'est contradictoire, mais il faut commencer à améliorer ce ratio dans un premier temps et ensuite avoir une réforme globale de l'administration, les modalités de recrutement, y compris les salaires, etc. Mais tout cela doit se faire en miroir avec le coût de la vie ici en Nouvelle-Calédonie. Et puis aussi, il faut qu'on ait plus de personnes pour nourrir une économie saine. Les institutions, le secteur public dépend d'une économie saine et une économie saine dépend aussi du nombre de personnes. Je crois que ça a été évoqué aussi parmi les explications de vote de certains élus, de certains groupes. Il faudra que nous réglions ce problème aussi.
Vaïmoa Mouliava qui salue l'esprit de compromis qui a prévalu chez les élus. Le texte a été adopté à l'unanimité, mais les élus loyalistes ont insisté sur la nécessité d'augmenter le nombre d'habitants en Nouvelle-Calédonie. Explication du député Nicolas Metzdorf.
Ce qu'il faut, c'est augmenter le nombre de travailleurs. Comment on augmente le nombre de travailleurs ? Un, en augmentant la natalité en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on a une population qui vieillit, donc il faut faire des enfants, tout simplement. Mais ça, ça prend du temps. Et deuxième chose, il faut faire venir du monde, il faut faire venir des travailleurs. Et en ce moment, on vit plutôt le contraire, puisque les gens partent à cause des exactions de la CCAT. Donc on voit que les délits qui ont été commis par les aficionados de l'UC, finalement, mettent en péril non seulement l'économie calédonienne au jour le jour, mais aussi nos systèmes de retraite par répartition. Et donc, il faut ramener de la stabilité politique en Nouvelle-Calédonie pour ramener du monde qui travaille, qui cotise et qui peut donc assurer une retraite décente pour nos anciens.
De son côté, le président du syndicat des retraités territoriaux, Dominique Frontier, est satisfait. Il salue l'adoption de cette réforme, mais il regrette qu'elle arrive un peu tard. L'essentiel pour lui, c'est de repousser l'âge de départ à la retraite.
L'âge de départ à la retraite est impératif. Là, les 62 ans, c'est un pied d'aller. Hein. 64 ans, c'est dans 2 ans, hein, il faut y passer. On vit de plus en plus vieux. On est relativement en bon état, hein, à 80 ans. C'est plus possible de continuer comme on était en 1954 quand on a créé la CLR. C'est impossible. Vu l'état des finances des collectivités, de la Calédonie, des provinces, les cotisations, à mon avis, on ne va pas pouvoir les bouger comme ça. Elles sont déjà très fortes. Hein. Le problème qu'il y a, c'est impérativement l'âge de départ à la retraite. Alors, maintenant, on va arriver quand même avec, je pense, peut-être avec un peu de recrutement de contractuels, puisque le recrutement de fonctionnaires, il ne faut plus y compter non plus. Hein. Le territoire n'a pas les finances pour. Donc maintenant, notre seule ressource, c'est ça. Ça va être de reculer l'âge de départ à la retraite, mais impérativement.
Et nous reviendrons sur cette loi du pays relative à la CLR demain en compagnie de Vaïmoa Mouliava, le membre du gouvernement en charge de la fonction publique. Il sera notre invité du matin à 7h30. Et puis c'est le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, qui sera demain à midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Quelle est son analyse de la situation 3 mois après le déclenchement des émeutes et quel rôle peut-il jouer en tant que parlementaire ? Il sera aussi interrogé sur les différentes prises de position politique et sur la question des relations internationales, mais aussi sur la situation politique nationale. Nicolas Metzdorf, invité de Transparence, est donc à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier. 91% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS trouvent normal de sanctionner sévèrement les élus qui tiennent des propos injurieux dans l'hémicycle, comme ce fut le cas mardi au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et ce matin aussi, on vient de le voir, ils ne sont que 9% à trouver que ce n'est pas normal. Notre question du jour, êtes-vous irrité par les prises de position de pseudo-experts internationaux qui interviennent dans le dossier calédonien ? Si cela vous irrite, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. À ce propos et sans surprise, le groupe UCFLNKS et nationaliste du Congrès fait le service après-vente de la déclaration diffusée hier par 4 experts pseudo-internationaux qui dénoncent la gestion de la crise calédonienne par la France. Dans un communiqué signé de Pierre Chanel Tutugoro, le groupe UCFLNKS et nationaliste tient à féliciter le travail des 4 experts indépendants des droits de l'homme mandatés par l'ONU. Selon le groupe, ils rendent compte en toute impartialité de la situation des droits de l'homme en Nouvelle-Calédonie. Fin de citation. Revenons à l'actualité institutionnelle et à l'électricité aussi, puisqu'une aide énergie exceptionnelle et ponctuelle à destination des personnes en chômage total pourrait être créée prochainement. Le Conseil économique, social et environnemental a rendu ce matin un avis favorable sur le projet de délibération présenté par le gouvernement. Comme l'explique Jean-Pierre Cabard, président de la commission Mines, Métallurgie et Énergie du CESE, près de 5 900 personnes sont actuellement impactées par le chômage et pourraient donc bénéficier de cette aide.
Bah écoutez, c'est un dispositif qui se veut simple, puisque c'est une aide attribuée aux gens qui sont au chômage total pendant une période de 4 mois. Une aide sur leur facture d'électricité pour un montant de 5 000 francs par mois ou de 20 000 francs cumulés sur la période des 4 mois. Potentiellement, ça représenterait 5 900 personnes. Une aide comme celle-là, même si elle peut paraître pas très importante et peut-être qu'elle aurait pu être mieux ciblée, mais en tout cas, elle répond à l'urgence. Donc, pour ce qui est de ce point-là, le CESE a donné un avis favorable. C'est une aide qui représente 220 millions de francs CFP, qui sera alimentée par des fonds européens qui sont disponibles dans le cadre de la transition énergétique.
Et s'il a rendu un avis favorable, le CESE a émis quelques recommandations sur l'attribution de cette aide. En effet, pour l'instant, elle ne ciblerait que les personnes en chômage total, en excluant donc les travailleurs indépendants. Le CESE encourage également le gouvernement à maintenir les campagnes de sensibilisation sur la baisse de la consommation d'énergie. Un mot encore de l'actualité institutionnelle. Le conseil municipal de Dumbéa est réuni depuis 17h30 sous la présidence de Johan Lecourieux. À l'ordre du jour, notamment la décision modificative numéro 1 du budget 2024 de la ville. Les conseillers doivent également habiliter le maire à contracter un emprunt auprès de la BNC et attribuer des subventions à diverses associations et organismes. Lors de ce conseil, un point de situation sera fait aussi sur les conséquences pour la commune des exactions commises depuis le 13 mai. Il est 17h58, une première pause dans ce journal. On se retrouve dans un instant pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie.
Vous savez que vous devez faire contrôler ou changer les pneus de votre véhicule de marque premium, mais savez-vous que Prestige Motor, c'est aussi un service minute de montage de pneumatiques? Un service première classe, rapide, avec de nombreuses références disponibles et sans rendez-vous dédié à tous les véhicules premium. Vous méritez le meilleur, vos pneus aussi. Prestige Motors, au 6e kilomètre. Téléphone 44 30 00.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Jean-François Baudin.
Le gouvernement, la ville du Mont-d'Or, les acteurs de l'enseignement et des entreprises privées s'allient pour venir en aide aux collégiens et lycéens du Mont-d'Or, notamment ceux qui sont dans l'incapacité de se rendre vers leurs établissements scolaires, Sarah Mégerie.
La continuité pédagogique est soutenue par les collectivités pour permettre aux élèves de suivre une scolarité à peu près normale dans le contexte particulier de la Nouvelle-Calédonie. Mais le mérite en revient d'abord aux enseignants du Mont d'Or qui sont à l'initiative de ce dispositif. C'est ce que souligne Nicole Noiletasse, la directrice académique adjointe au vice-recteur.
Au niveau du vice-rectorat, c'est surtout nos chefs d'établissement. Bien sûr, on a travaillé en lien avec eux, mais ce sont nos chefs d'établissement, le proviseur du lycée du Mont-d'Or, la directrice du collège de Ploum et la directrice du collège de Boulary. On peut parler aussi du directeur du collège de Yatté. Ce sont eux qui ont mis en œuvre, en fait, en lien avec nous, bien sûr, mais ce sont eux et leurs équipes qui ont mis ce dispositif-là en place et en lien avec les partenaires. Par rapport au dispositif du Mont-d'Or, c'est très bien ce dispositif. Il est ponctuel. Il faut le mettre en place. Fallait le mettre en place. Tout le monde a participé, donc c'est une bonne chose. C'est ce qu'on appelle s'appelle l'Alliance éducative, et ça, c'est important.
Plusieurs dispositifs d'aide ont été mis en place. Ils permettent aux élèves du Mont d'Or Sud de bénéficier d'un dispositif de continuité pédagogique de qualité. Une initiative aujourd'hui officialisée par le gouvernement. Isabelle Chamorro, la vice-présidente du gouvernement.
Notre rôle, avant tout, c'est d'être en coordination, c'est de mettre tous les partenaires autour de la table, chacun dans leurs compétences. On voit que même des sociétés privées sont venues compléter le dispositif et je voudrais les saluer. Donc nous, c'est vraiment le gouvernement, je pense que c'est notre rôle dans la situation de crise et les populations nous attendent sur cette mission. C'est vraiment d'être en coordination et à leur écoute. Ensuite, on l'a tous dit, la vraie solution, c'est pas des dispositifs pédagogiques temporaires, même s'ils sont indispensables, c'est que très rapidement, la route provinciale soit libérée, on en connaît les difficultés. Je voudrais saluer le travail des forces de l'ordre. On a parlé aujourd'hui du droit à l'éducation, mais il y a un des droits fondamentaux également de la République, c'est celui à circuler librement et en toute sécurité, et c'est celui-là qu'on souhaite voir rétablir pour tous les Mont-Doriens.
De son côté, la municipalité met à disposition des lycéens du Mont d'Or Sud la salle des communautés, une initiative relayée par des acteurs privés. La Société Générale et l'As de Trèfle mettent à disposition des élèves des ordinateurs, une imprimante et des fournitures scolaires.
Retour à la normale pour les quelques 700 clients OPT de la zone du Grand Nord, victimes de perturbations télécom depuis hier soir. Une voiture avait percuté un poteau téléphonique hier vers 17h au niveau de Carambé sur la route entre Koumac et Kaalagomène. Le réseau aérien de fibre optique avait été touché et impacté les zones et communes de Koumac, Kaalagomène, Poum, Malabou, Bélep, Pouébo, Paagoumène, Ouégoua, Colnet et Carambé. Les équipes de l'OPT se sont activées à ressouder les câbles endommagés et le réseau a pu être rétabli en fin de matinée dans tous les secteurs concernés. La crise insurrectionnelle va entraîner une crise sanitaire. La situation s'annonce en effet tendue au cours des prochains mois en raison d'une pénurie de soignants, Elisabeth Noir.
Les violences ont entraîné des départs de soignants. Elles ont aussi freiné les recrutements, pour ne pas dire qu'elles les ont stoppés. Le CHN est déjà en situation critique avec dans le Nord plusieurs dispensaires sans médecin et une offre de soins limitée. Le Médipôle, lui, se prépare à des mois difficiles. Écoutez le docteur Mathieu Séry, le vice-président de la commission médicale d'établissement du CHT.
La situation sanitaire dans les prochains mois va se tendre avec effectivement une réduction des soignants, donc une offre sanitaire qui va forcément être diminuée. Il y a des services qui sont plus touchés que d'autres. Les urgences, c'est un service qui est en tension parce qu'ils vont perdre un tiers de leurs effectifs. Ça va poser vraiment des problèmes à très court et moyen terme pour la prise en charge des urgences extra-hospitalières, c'est-à-dire le SAMU, et en particulier aller chercher les malades qui sont loin du CHT. Ensuite, il y a quelques services qui vont se retrouver en tension. On peut parler de la pneumologie où il y a quasiment la disparition de l'ensemble des praticiens du service parce que il y a un départ de 3 pneumologues sur l'ophtalmo où ils étaient à 4, on se retrouvait seulement à 1 médecin. Puis dans d'autres services, alors qu'il y a le nombre de médecins, il va manquer des infirmiers un peu spécialisés. C'est le cas par exemple de la réanimation où il y a un nombre suffisant de médecins mais il ne va pas y avoir assez d'infirmiers pour maintenir tous les lits ouverts. Donc oui, on va avoir des difficultés à court terme. Ça va être des mois difficiles jusqu'à la fin de l'année.
Face à ce constat, les professionnels de santé s'organisent. Au début du mois, ils ont été reçus par le haut-commissaire Louis Lefranc et 3 pistes ont été évoquées pour pallier l'absence de médecins. Et depuis, le CHT travaille à leur mise en œuvre.
Les 3 solutions, c'est localement, se réorganiser, être capable de faire avec les gens qui sont sur le territoire, repenser au schéma de soins, que ce soit les urgences ou les schémas chroniques, pour essayer de fournir le meilleur soin à la population, entre tous les gens qui le souhaitent, que ce soit le secteur libéral ou le secteur public, et que ce soit le Nord ou le Sud, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est essayer de continuer à attirer des gens et continuer à faire nos démarches vers la métropole, et en particulier les associations avec les universités. On a un grand passif avec l'université de Bordeaux de coopération, donc il faut continuer à miser là-dessus. Et puis, de façon très transitoire, on peut faire appel, et ça a été le cas, à la réserve sanitaire pour des spécialités bien précises, pour venir combler pendant quelques semaines un besoin critique.
Une convention est en cours de préparation concernant la réserve sanitaire. Il s'agit d'une solution coûteuse, et pour l'instant, aucune date n'est arrêtée pour la venue éventuelle de cette réserve sanitaire nationale.
Du riz, des nouilles instantanées ou encore des boîtes de conserve vendues à très bas prix. L'épicerie solidaire de la société Saint-Vincent-de-Paul au Mont-d'Or est de nouveau fonctionnelle et elle sera dorénavant ouverte tous les jeudis matins à partir d'aujourd'hui.
Ce service n'est pas ouvert à tous. Pour acheter des produits alimentaires proposés par l'association, il faut présenter une attestation de chômage ou avoir reçu au préalable une carte d'accès délivrée par le CCAS de la commune. C'est ce que précise Dominique Bégaud, c'est la directrice du CCAS de la ville du Mont-d'Or.
Alors en fait, la nouveauté avec cette réouverture, c'est qu'on a vu avec Saint-Vincent-de-Paul que du fait de la crise, il y a des personnes qui ont perdu leur emploi et qui ne sont pas détenteurs de l'aide médicale, qui étaient les critères éligibles auparavant. Donc on a travaillé avec l'association pour faire des cartes d'accès qui émanent du CCAS. Donc sur les critères sociaux, sur proposition du travailleur social du CCAS, on pourra délivrer une carte d'accès aux personnes pour qu'elles puissent aller faire leurs courses. Je rappelle que ce sont des produits qui sont vendus à prix coûtant dans cette épicerie solidaire. Saint-Vincent-de-Paul achète, mais ne fait pas de marge bénéficiaire dessus.
Peu de clients ce matin et pourtant depuis la reprise des permanences du CCAS le 28 mai, il y a une augmentation de près de 50%. Des demandeurs d'aide. Il s'agit de personnes directement impactées par la crise qui était auparavant inconnue des services sociaux. Sur place ce matin, une dame âgée venue spécialement de Ploum pour se ravitailler. Pour elle, la solidarité est plus que jamais nécessaire.
Moi, j'ai entendu l'annonce à la radio disant qu'une ouverture de l'épicerie solidaire d'ici. Alors, j'ai passé voir ce qu'il en est. Depuis le mois de mai, là, c'était fermé, alors mis à part curiosité, puis aussi pour un aperçu. Oui, je suis venue exprès de Ploum, j'ai pris la navette, j'ai attendu presque une heure pour venir jusqu'ici. Oui, j'ai acheté de la nourriture pour remplir un peu le placard, comme c'est vide déjà. ça peut aller pour le portefeuille. Hein. Bah, tout le monde maintenant est à la recherche de solidaires hein, pour pouvoir s'en sortir de la crise pour tout le monde.
Avant le 13 mai, l'épicerie solidaire de la société Saint-Vincent-de-Paul au Mont-d'Or était ouverte 3 matinées par semaine. Elle reprend progressivement son activité. Désormais, elle accueille les bénéficiaires pour l'instant le jeudi de 8h à midi.
Ils ont choisi de ne pas baisser les bras et de relancer leur activité. Ce midi, dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, nous avons entendu les témoignages de chefs d'entreprise ou de commerçants lourdement impactés par les émeutes du 13 mai et qui, malgré tout, tentent de sortir la tête de l'eau. C'est le cas de Jean-Pierre Debien. Son magasin Lagachon, spécialisé dans le matériel de pêche et de plongée, a été incendié et pillé à Ducos dès le début des émeutes.
Gros coup au moral, dans un premier temps, et puis faut que ça passe. Y a beaucoup de messages de soutien, de clients, de plein de gens, donc ça fait chaud au cœur. L'envie de repartir, elle était là, mais repartir dans quelles conditions? Et avec l'hypothèse que dans un an, dans 5 ans, tout ça puisse se reproduire. Mais après tout ça, ça retombe, et puis y a les employés, on n'est pas tout seul, il y a les proches, on a un soutien, et puis il faut repartir pour soi et pour les autres aussi. Donc on a commencé par des boutiques éphémères sous des tivolis pendant 6 semaines, sous la pluie, à 5 reprises, mais on n'a pas abandonné. Et aujourd'hui, on vient de retrouver un petit local qui va nous permettre de rebondir et de redémarrer.
Et malgré de nombreuses difficultés, notamment administratives, l'envie de repartir est réelle. Pourtant, il subsiste bien des incertitudes, a expliqué Laurent Jandot, le directeur général du groupe Jandot.
Il y a une dynamique très forte, beaucoup de courage de la part des collaborateurs, des patrons. En même temps, on vit toujours au jour le jour. C'est-à-dire qu'on ne voit pas d'amélioration économique, politique. Je rappelle que pour une reconstruction, il faudra qu'il y ait, à mon sens, un accord politique. Donc, l'envie est là, mais je trouve qu'on se fatigue un petit peu au jour le jour. C'est lundi, c'est vendredi, puis après c'est lundi suivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, pas grand-chose de nouveau. Le marché, il n'a toujours pas évolué. Hein, il est à 20% de ce qu'il était avant. Donc, la situation normale, comme vous l'évoquez, moi, j'ai plutôt envie de demander quelle sera la situation normale de demain, parce que je pense qu'elle ne sera malheureusement pas celle d'hier. Nous avions tous nos habitudes dans le dimensionnement de nos commerces, dans le dimensionnement de nos effectifs. On fonctionnait comme ça quand même depuis des décennies. Aujourd'hui, nous voyons des gens partir malheureusement un petit peu tous les jours. On n'a pas trop idée du nombre. Mais quel va être le normal de demain et combien de temps faudra-t-il avant d'arriver au normal que nous avions avant le 13 mai.
Des extraits des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu auxquels participait également Christophe Nourry, dont la boucherie se situe dans le quartier d'Apogoty et qui a pu rouvrir son magasin un mois après le début des émeutes. Une émission à retrouver sur notre site internet rrb.nc. Une deuxième et dernière pause dans ce journal. Dans un instant, ce sera l'actualité dans la région et le sport.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, RRB raconte une histoire aux tout petits
vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dôme, la boutique des tout-petits. Petit Dôme, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dôme, on n'hésite plus, on y va.
Si vous êtes prêt à faire plaisir à toute votre famille sur 3 générations, alors vous êtes prêt à profiter des journées plaisir Gémeaux. Jusqu'au 23 août, moins 30% pour 3 articles achetés, moins 40% pour 4 et jusqu'à moins 50% pour l'achat de 5 articles ou plus.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Offre valable sur une sélection d'articles textiles signalés par une étiquette rouge, voire conditions en magasin.
RRB.
Nos boîtes mail Lagoon étant inaccessibles pour le moment, nous vous informons que vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse suivante rrb@rrb.nc. Informations, publicité, programmation, avis de décès, avis et communiqué, une seule adresse, rrb@rrb.nc. RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite du journal, Jean-François Baudin.
Avec l'actualité dans la région et d'abord en Nouvelle-Zélande, plusieurs vols ont dû être annulés en raison d'une éruption volcanique qui a provoqué le dégagement d'un panache de cendres. La présence de cendres volcaniques sur des trajectoires de vol a ainsi contraint Air New Zealand à annuler 10 vols. Les trajets avaient pu reprendre dans la journée grâce à la dispersion des cendres dans l'espace aérien. Ce volcan White Island se situe à quelques 50 km au large de l'île du Nord et à 200 km d'Auckland. En 2019, son éruption avait tué 22 personnes. L'actualité dans la région, c'est aussi cette décision en provenance de Tarawa. Le gouvernement sortant des îles Kiribati a annoncé la fermeture de ses frontières à tous les diplomates étrangers. Les explications de Jean-Pierre Zajac.
Dans une lettre officielle adressée à toutes les missions diplomatiques étrangères en poste à Tarawa, le ministère des Affaires étrangères a annoncé que, je le cite, « en raison des élections nationales, aucune visite ne sera autorisée jusqu'à la fin décembre ». Cette mesure, a poursuivi la missive, est nécessaire pour permettre au gouvernement de se concentrer sur les tâches essentielles pendant cette période. Le ministère exprime sa gratitude pour votre patience et votre compréhension concernant cette décision, a conclu la lettre. Seule explication plausible, les diplomates non résidents chercheraient à se rendre à Tarawa dans les meilleurs délais afin d'y présenter leur lettre de créance, ce que le gouvernement veut éviter. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 18h13 et l'on va passer à l'actualité sportive. On poursuit la découverte des athlètes calédoniens handisport qui sont sélectionnés pour les Jeux paralympiques qui débutent la semaine prochaine.
En route pour Paris, découvrez les athlètes calédoniens sélectionnés pour les Jeux paralympiques avec le CTOS, l'Agence nationale du sport et la BNC.
Le plus connu et le plus emblématique de ces athlètes handisport calédoniens est bien sûr Pierre Ferbank. L'athlète fauteuil détient déjà 9 médailles paralympiques, une en or, 3 en argent, 5 en bronze. Il ne pensait jamais atteindre ce niveau ni participer à ces Jeux paralympiques 2024. À 53 ans, ce devrait être ses derniers. En tout cas, il ne pensait pas avoir une telle longévité sportive.
Pas du tout, pas du tout. J'avais commencé par les... Bon, comme tout sportif, championnat de Calédonie, championnat de France, ensuite première sélection en championnat du monde, et ensuite les Jeux à Sydney 2000, donc je pensais avoir tout fait. Ensuite, après les Jeux de Sydney, ben voilà, je me suis dit pourquoi pas Athènes, le berceau des Jeux, c'est quand même quelque chose à vivre. Et puis ensuite, je voulais arrêter et j'ai repris... 3 mois après, jusque pour les Jeux de Pékin, parce que je me suis dit en Chine, ça va être magistral. Et puis voilà, à chaque fois, à Londres, je me dis, le public, c'est un public génial, donc il faut y être. Et après Rio, je ne veux pas mourir avant d'avoir été au Brésil. Donc du coup, voilà, à chaque fois, il y a quelque chose. Et là, aux Jeux de Tokyo, bah, je pensais m'arrêter. Et je fais encore une médaille, donc ça m'a aussi un peu motivé. Et je me dis qu'avec la Covid, ça a été décalé d'une année. Donc, du coup, il ne me restait que 3 ans pour arriver aux Jeux de Paris. Je me dis, allez, 3 ans, c'est jouable. Et puis, finir à Paris, ça serait beau, quoi.
Et Pierre Ferbank va donc disputer ses 7e Olympiades et il est prêt.
Ça y est, le compte à rebours a commencé. Tic-tac, tic-tac. Et la petite horloge commence à titiller. Donc, bien sûr, envie de bien faire, envie de gagner et puis envie de vivre ces moments-là. C'est des moments incroyable. Donc, c'est pour ça que je motive tout le monde à faire du sport, parce qu'on commence toujours par du loisir. Et puis, en fin de compte, si on se prend au jeu et qu'on arrive à se faire plaisir, et comme je le fais depuis tant d'années, eh ben, on peut vraiment performer à plus haut niveau et, voilà, et vivre des moments exceptionnels.
Pierre Ferbanque est une légende dans le monde du handisport. Il a donné beaucoup de temps à son sport, sans oublier pour autant de vivre ses passions et son métier.
Des passions comme tout le monde. Hein. J'aime un peu la musique, j'aime le jardinage, j'aime me promener, si ça peut être une passion, mais voyager, rencontrer d'autres univers. Mais au niveau professionnel, ça fait 18 ans que je suis éducateur sportif à la province sud. Ce qui est bien dans mon métier, c'est que j'arrive à allier mon sport et le véhiculer et le communiquer à tous les jeunes qui viennent faire du sport au stade. Donc, j'essaie de motiver toutes les personnes qui ont un handicap à faire du sport, avec la création de l'école handisport qui est au stade. Et je m'occupe du développement du handisport en province sud et de l'accessibilité aussi, pour pouvoir permettre à toute personne qui a un handicap de se déplacer dans tous les endroits provinciaux, voilà, des établissements et autres.
Sa carrière et son métier lui ont permis donc de faire évoluer le handisport, mais le public calédonien qui a toujours soutenu les sportifs a aussi contribué, explique-t-il, à changer le regard que l'on peut porter sur les athlètes handisport.
C'est vrai qu'ils nous ont toujours encouragés depuis le début et le potentiel en Calédonie est énorme. On a, depuis la création de la Ligue en 91, presque 40 médaillés paralympiques. Le handisport en Calédonie a toujours fonctionné, et ça fonctionnait parce que justement il y a le public, les Calédoniens derrière, il y a les institutions qui nous soutiennent, et on n'aurait pas pu y arriver sans cela. Les Calédoniens, à chaque événement, depuis tant d'années maintenant, le regard, je dirais, a changé, parce qu'avant, on voyait un sportif handicapé, maintenant, on voit plus un sportif tout court. Les performances ont progressé, et maintenant, on voit plus la performance que le handicap.
Pierre Ferbanque, athlète engagé, dont on peut aussi saluer le sourire, la bonne humeur et la joie de vivre. Et si ces Jeux paralympiques devaient être ces derniers, on espère très fort qu'il ramènera une 10e médaille. Et après Vitolio Cavacava hier et Pierre Ferbanque aujourd'hui, demain on découvrira le dernier athlète calédonien sélectionné pour ces paralympiques, c'est Félicien Siapo.
En route pour Paris, découvrez les athlètes calédoniens sélectionnés pour les Jeux paralympiques avec le CTOS, l'Agence nationale du sport et la BNC.
Le sport toujours avec du football, et la sélection A de Nouvelle-Calédonie connaît son programme pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui auront lieu aux îles Fidji. Le premier match, ce sera contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La rencontre est prévue le jeudi 10 octobre à 15h. 4 jours plus tard, les joueurs de Johan Zidaner affronteront les îles Salomon le lundi 14 octobre. Et ils termineront cette phase de poule face aux Fidji le jeudi 17 octobre. Et puis du tennis, c'est le top départ ce soir du championnat de France à Blois avec 3 Calédoniens engagés. Grégoire Thiollier ouvrira le bal ce soir à 20h. Il est engagé dans le tableau des 4e séries. Il affrontera Arnaud Joulin, qui est mieux classé que lui en 16e de finale. Rodolphe Longjaret et Mélanie Dalle entreront dans la compétition demain en 3e série. Écoutez Olivier Ledain, le président de la Ligue calédonienne de tennis.
Il est délocalisé cette année de Roland-Garros du fait des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. Sinon, habituellement, il se joue à Roland-Garros. Ça se joue uniquement sur terre battue, comme toujours avec les championnats de France. Donc c'est un peu une découverte ou un réapprentissage pour nos joueurs calédoniens, puisqu'on n'a pas cette surface ici sur le territoire. Je dirais que celui qui a le plus de chance, à mes yeux, c'est Rodolphe Longjaret, qui peut aller loin dans le tableau, puisqu'il a été début de seconde série. Donc j'espère qu'un des trois, voire les trois, vont aller le plus loin possible pour faire porter un peu les couleurs de la Calédonie un peu plus haut que d'habitude.
Voilà, et les résultats de ces tennismen calédoniens sont à suivre et à retrouver sur la page Facebook de la Ligue calédonienne de tennis. C'est la fin de ce journal. D'abord la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
La météo avec Nicolas.
Alors, cette nuit sur l'ouest, le ciel sera bien dégagé. Ailleurs, quelques plaques de nuages bas se formeront. Près de la pointe sud, sur l'île des Pins et vers Marais, quelques gouttes seront possibles en fin de nuit. Le vent de secteur est soufflera généralement autour de 15 nœuds, voire 15 à 20 nœuds sur la pointe nord. Les températures minimales évolueront peu, entre 12 et 17 degrés sur l'ouest, Lifou et Marais, et entre 16 et 21 degrés sur les autres régions. Demain matin, grand soleil sur le territoire, quelques quelques passages nuageux seront présents sur l'extrême sud et vers Marais. Sur l'ouest, le vent sera faible au lever du jour, puis de faibles brises de 5 à 10 nœuds se lèveront en fin de matinée. Ailleurs, le vent de secteur est soufflera entre 10 et 15 nœuds, localement accéléré entre 15 et 20 nœuds aux extrémités de la Grande Terre. Jean-François.
Merci Nicolas, c'est la fin de ce journal.